vous lis cet extrait. Des relations profondes où un amour saint est exprimé donnent à une église beaucoup plus d'attirance que tous les efforts de marketing que ce monde peut produire. Le marketing dans l'église, c'est comme une fleur en plastique qui ressemble à une fleur fraîche, mais sans l'odeur agréable de cette dernière. Le véritable amour répand ce parfum mystérieux que l'on peut difficilement ignorer. C'est bien dit, c'était mieux que je le lise. Des relations profondes où un amour saint est exprimé donnent à une église beaucoup plus d'attirance que tous les efforts de marketing. Je crois qu'une des grandes tragédies de la vie dans l'église, c'est la difficulté et même parfois, malheureusement, l'impossibilité de l'unité entre les membres du corps. Je vous rappelle que l'église est aussi appelée le corps de Christ en analogie avec ce corps physique, notre corps humain. On en reparlera tout à l'heure. Au lieu même où nous devrions vivre la plus grande et la plus belle des solidarités, de sorte que le monde qui nous entoure devrait être bouleversé par un tel degré d'unité, la vie du croyant parfois est plus synonyme de solitude que de solidarité. Solidaire signifie être lié à quelqu'un d'autre ou à un groupe par une responsabilité commune ou par des intérêts communs. Solidaire signifie être lié, être dépendant l'un de l'autre. Je crois très profondément, mes frères et sœurs, qu'en créant l'Église, Dieu a voulu une société différente que celle que nous voyons dans le monde. Dieu a voulu une société où règne l'harmonie et la paix. Il est écrit dans la parole, dans le livre des Actes, dans cette Église naissante qui est pour nous un modèle extraordinaire, il est écrit « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. » Acte 4, verset 32. Et je crois qu'un des joyaux de la vie de l'Église, c'est bien la communion fraternelle. Permettez-moi de vous relire ce psaume qu'on lit souvent. « Voici ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia! On le chante parfois, on a des cantiques qui... Psaume 133. La solidarité réciproque des membres de l'Église. Alors j'ai découpé mon message en trois parties. Et la première partie que je voudrais laisser sur votre cœur, c'est vous dire, vous rappeler, bien sûr vous connaissez toutes ces choses, c'est que la solidarité, elle est au centre du projet divin. Je me permets de vous lire quelques versets de la parole de Dieu. Dans le livre de l'Ecclésiaste, mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? On lit souvent ces versets pour les mariages. Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9. La solidarité, elle est au centre du projet divin. Un des exemples flagrants, regardez avec moi, Genèse chapitre 1er, dès les premiers versets, Genèse chapitre 1er, verset 1er. La solidarité est au centre du projet divin et on le voit, vous savez, dans quoi la, on définit la religion chrétienne comme une religion monothéiste et nous avons raison de le faire parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais c'est un Dieu en trois. Ce qu'on a appelé la Trinité, la tri-unité. Verset 1er, au commencement, Dieu. Nous avons là Dieu, le Père. Il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, verset 3, Dieu dit que la lumière soit la parole de Dieu, le Fils, Christ, cette parole qui a été faite chair. Dans ces trois premiers versets, vous avez cette quintessence, je crois, de l'Éternel, de la solidarité au centre du projet divin. Dieu n'est pas seul. Regardez un peu plus loin, au verset 31. Vous savez, il y a une expression qui revient souvent dans ces premiers passages de l'écriture, de la création, pardon. Tout ce que Dieu fait, il fait un peu le point, et il trouve que cela est bon. Et au verset 31, il dit ceci, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, voici, c'était très bon. Et pourtant, si vous regardez au chapitre 2, au verset 18, dans ce tout bon, tout ce très bon, il est écrit ceci, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon. Alors tout était bon, il y avait quelque chose qui n'était pas bon. C'est que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide ménagère. Oh pardon, c'est un lapsus révélateur, hein, comme on dit. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et nous connaissons comment Dieu, à sa façon à lui, a cloné l'homme, d'une certaine manière. Avec quelques petites différences, bien sûr. Et la femme. Dans la création entièrement bonne est apparu quelque chose de pas bon, l'homme seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon non plus que l'homme gouverne seul. Je vous rappelle juste, on va pas le relire ensemble, mais ce passage, vous savez, où Jéthro, le beau-père de Moïse, arrive, et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit Moïse. Assis, du matin au soir, toute la journée, le peuple de Dieu passe un par un, et il est seul à juger. Pourquoi, lui dit-il, sièges-tu seul, tu vas t'épuiser, tu vas épuiser ce peuple, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. La solidarité, elle est au centre du projet divin, elle est pour dire que l'homme, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme gouverne seul. Et Jéthro va donner ses conseils à Moïse d'établir des chefs de 1000, de 100, de 50 et de 10 qui porteront la charge du peuple avec Moïse. On le voit aussi plus loin dans l'Église primitive, dans Actes 6. Quand l'Église commence à grandir, eh bien, il y a cette nécessité, à un moment donné, de désigner des frères pour servir aux tables afin de permettre aux apôtres de continuer à se consacrer pleinement à la parole de Dieu. Et là, c'est une belle occasion pour moi de dire avec force ici que la gouvernance de l'Église locale a toujours été voulue et pensée par Dieu selon un principe de collégialité. Nous le défendons dans notre assemblée, la parole de Dieu nous l'apprend, nous le révèle. Nulle part dans le Nouveau Testament, nous ne trouverons un conducteur solitaire. Nulle part, dans aucune église vous le trouverez. Par contre, dans le Nouveau Testament, on voit des qualifications, des termes particuliers, anciens, évêques, à qui est confiée la gouvernance de l'église. Excusez-moi, c'est pas le sujet ce matin, c'est un peu réducteur de le dire comme ça. Mais je voulais juste vous dire une chose, c'est que ces deux termes, anciens et évêques, vous savez quoi ? Ils sont toujours au pluriel. Toujours au pluriel. il n'est pas bon que l'homme gouverne seul. Quand Jésus va envoyer les apôtres, il va le faire deux à deux. Il appela les 12 et il commença à les envoyer deux à deux. Marc, chapitre 6, verset 7. C'était leur première tournée missionnaire. Il serait pas trop d'être deux, eh bien, pour appréhender peut-être toutes ces difficultés, se soutenir, s'encourager, veiller l'un sur l'autre. On voit plus tard des binômes missionnaires, Pierre et Jean, Paul et Barnabas, Paul et Silas. Je vous le dis ce matin, que ce soit au sein de la cellule familiale, comme on l'a vu, ou dans notre vie, dans la société, nous voyons ce principe divin, deux valent mieux qu'un. Comme ici, lorsque le Seigneur dit ceci dans sa parole, « J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera, car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, je suis présent au milieu d'eux. » La solidarité, mes frères et sœurs, est inscrite dans le projet de Dieu pour l'humanité. Et nous devons comprendre que la vie dans le royaume de Dieu n'a rien à voir avec l'individualisme tel qu'on peut le voir aujourd'hui, d'une manière exacerbée parfois dans notre société. La vie dans le royaume de Dieu, c'est pas du chacun pour soi. J'ai dit que le royaume de Dieu n'avait rien à voir avec l'individualisme, avec le chacun pour soi. Et quand on prend le pain et le vin, c'est extrêmement flagrant parce qu'il y a le principe de la communion. Je ne sais pas si j'aurai le temps tout à l'heure, mais je voudrais vraiment partager avec vous que le principe de la vie dans l'Église, c'est vraiment un principe communautaire. Et là, je lis tout simplement ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens et que nous lisons régulièrement. « Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps. » puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Alléluia. Le symbole d'unité par excellence. Nous sommes plusieurs, différents, de nationalité, de tous horizons parfois, mais par l'œuvre de Christ à la croix, il y a un pain unique, Jésus, et quand nous prenons chacun un petit peu de Jésus, excusez-moi, la formulation n'est pas bonne, mais chacun, en fait, Jésus se forme dans notre communauté. Il y a un seul pain unique, nous qui sommes plusieurs, nous partageons ce pain par la foi, et Dieu, nous sommes un, nous formons le corps de Christ. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, merci parce que tout ce que tu fais est parfait. Nous n'arrivons pas à comprendre et combien nous nous sentons limités. Comme le disait notre frère Janson dans sa prière tout à l'heure, c'est vrai que le peu que nous comprenons déjà de ton amour, ça nous bouleverse. Et dire que nous comprendrons de mieux en mieux et surtout quand nous serons tout pour toujours auprès de toi. Merci pour ta parole, parce que c'est vraiment une fenêtre dans l'éternité. Elle nous révèle des choses, nous essayons, c'est vrai que nous nous sentons parfois limités pour les comprendre, mais le peu que nous comprenons ce matin, le peu que nous partageons, le peu que nous faisons quand nous prenons le pain, quand nous prenons le vin, nous réalisons qu'il y a là un miracle extraordinaire. La croix est une belle œuvre de réconciliation que tu as permis entre toi et les hommes, mais que tu as permis aussi entre chacun des hommes qui composent cette humanité. Ce matin, nous voulons te louer et te bénir. Autrefois, nous étions dans la misère. Autrefois, nous étions dans le péché. Autrefois, nous étions peut-être dans la colère, rebelle contre toi. Et ce jour-là où nous avons plié le genou devant la croix, tu as bouleversé nos existences, Seigneur. Merci parce que cette colère, tu as mis de la paix, tu as mis de la patience, de cette tristesse, tu as mis de la joie, de ces pleurs, peut-être que tu as mis aujourd'hui ce bonheur ineffable. Combien nous voulons ensemble te bénir et te louer. Nous voulons le prendre en considérant véritablement ce tout accompli à la croix du calvaire. Que ton nom soit béni. Amen. J'invite toutes celles et ceux qui ont confessé le nom du Seigneur en passant des eaux du baptême à vous lever à votre place. Et peut-être Voilà, il n'y a pas d'obligation à louer le Seigneur, vous savez, il n'y a pas de... Mais par contre, il y a une totale liberté. Dites-lui combien vous l'aimez. Dites-lui merci, merci Seigneur pour la croix. Et partageons ensemble vraiment le pain et le repas du Seigneur.